C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
Quoi dire sur ce qui s'est passé en fin de semaine dans cette petite municipalité de Notre-Dame-des-Prairies? Malheureusement, ça arrive trop souvent et on a l'impression qu'on rebrasse un peu les mêmes choses. Quels sont les faits d'abord? D'abord, il faut dire que un parent qui tue ses enfants, dans 80%, 85% des cas, ce sont des pères qui tuent leurs enfants. Deuxièmement, c'est toujours assez complexe. C'est une toile d'araignée qui, dans certains cas, s'étale sur une longue période de temps. Parfois, c'est un peu plus court, mais des relations tumultueuses. Et les peu de parents qui ont survécu vont vous dire qu'ils n'étaient pas dans un état normal, qu'il y avait une psychose attribuable à certains facteurs. Dans des cas, ça peut être une consommation de stupéfiants, un mélange, des problèmes de dépression. Mais on n'est pas, dans la plupart des cas, face à un enjeu de santé mentale. Oui, des gens qui ont des problèmes, qui sont dans une mauvaise passe, qui peuvent sembler dépressifs. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un pose des gestes comme ça? De ce qu'on comprend, l'homme en question, Yannick Lamontagne, avait décidé de suivre sa conjointe, d'installer un GPS sur son auto. C'est un expert en informatique qui savait comment jouer avec la technologie pour peut-être, justement, harceler et pas lâcher son ex-conjointe. On comprend qu'il y avait une relation, comme on dit, in and out. Et voyant que la police l'arrêtait, que ça compromettait peut-être sa relation avec les enfants, peut-être son emploi, il s'en est pas pris à sa femme. Directement, il a décidé de tuer les enfants puis de s'enlever la vie. Pour quelle raison? Pour la punir, pour dire que ces enfants-là ne seraient jamais bien s'ils devaient malheureusement disparaître. Je le sais pas, vous le savez pas. Mais ce qu'on comprend, c'est dans la souffrance puis dans la douleur, c'est important d'en parler, c'est important de... Puis on voit qu'il y avait quand même, j'entends depuis la fin de semaine, ce que Bénédicte vient d'écouter, des gens qui étaient près de lui. Puis les gens n'ont pas senti coupable de rien, là. Mais déjà, d'avoir l'oreille, l'écoute d'amis, de collègues de travail, c'est important. Puis aussi, d'être capable de détecter les signes de violence conjugale. Puis l'espèce de crescendo potentiel. Puis la police fonctionne à travers le corridor de la loi. Je t'arrête parce qu'il y a une plainte, je poursuis l'enquête pour déterminer si on va plus loin, si c'est plus sérieux, avec une promesse éventuelle de comparaître. Alors, évidemment, c'est d'une tristesse inouïe. On n'est pas capable de s'imaginer ça. Mais ça arrive souvent. Et je vous dirais que c'est un retour cette saison. Rappelons-nous le cas de cette femme de l'ouest de Montréal qui a été retrouvée à Wickham, qui était morte, tuée par son conjoint. Les deux enfants du couple avaient été abandonnés, laissés seuls dans la maison. Donc, un féminicide, de toute évidence. Et là, on se retrouve un autre week-end avec une histoire comme celle-là. C'est complètement horrible. Puis, il y a une autre histoire ce matin qui est rapportée dans la presse d'un garçon de 12 ans qui avait été arrêté et accusé, 12 ans, là, pour avoir achalé sa sœur, ou sa demi-sœur, pour être plus précis. Donc, c'est un enfant de 12 ans, de la région de Shawinigan, en Mauricie, qui a achalé sa demi-sœur, qui est une petite fille de 11 ans, et qui l'aurait touché les cuisses, les fesses et son ventre. Le petit gars disait avoir taquiné sa sœur, puis d'avoir continué, même si elle lui demandait d'arrêter. Sauf que la juge dans le dossier, Geneviève Marchand, a dit que ça n'avait pas de bon sens de reconnaître à 12 ans un enfant coupable, même si techniquement, on aurait pu le faire. Mais que ça envoyait un drôle de message et qu'il n'y avait pas véritablement de mauvaise intention, 12 ans, 11 ans, et que ça découle peut-être plus d'une chicane entre les adultes dans cette histoire-là, ou en tout cas un conflit entre les adultes. Elle dit les gestes reprochés l'ont été dans un contexte de taquinerie entre demi-frères et demi-sœurs. La seule motivation de l'accusé et de taquiner sa demi-sœur. Aucune blessure n'a été infligée. Elle n'a ressenti aucune douleur par rapport aux gestes posés par l'accusé, puis que ça enverrait un drôle de message à la population s'il fallait le reconnaître coupable. Il y a peut-être un encadrement à faire, là. Il y a peut-être, mais tu sais, on n'est pas là à 12 ans, surtout dans ce cas-là. Rentrée des classes, ça se fait de façon différente et progressive un peu partout au Québec cette semaine. On en a beaucoup parlé. Quelques observations qu'on doit faire ce matin. C'est sûr que le projecteur a été mis sur les profs, pénurie de profs. D'ailleurs, quand le ministre est sorti avec ses chiffres la semaine passée, ce sont des chiffres qui dataient. Et là, tu te demandes des fois s'il n'y a pas un petit peu de stratégie pour mettre de la pression, pour nous présenter un tableau qui est pire. Qu'il manque un prof dans une classe, là, c'est en soi un problème. Puis de faire appel à des gens qui n'ont pas nécessairement la formation, ça aussi c'est un problème. Surtout avec le volume de postes comblés de cette façon-là. Donc, est-ce qu'ils ont joué un peu avec le sentiment puis la crainte des parents? Ça se peut. Mais il manque encore des profs, il manque des employés en service de garde, il manque des professionnels, des chauffeurs d'autobus scolaires, puis il y a des conflits de travail. Ce qui fait que la rentrée, pour beaucoup de parents, c'est un casse-tête. Ça peut être assez chaotique également. Et je le dis depuis la semaine dernière, le monde de l'éducation est un univers qui est tellement complexe, puis il y a de la bureaucratie. Puis là, je blâme pas l'employeur puis les syndicats en particulier, mais disons qu'il y a des constats qui sont faits. Je vous donne l'exemple. Une auditrice qui m'écrit me parle de quelqu'un qui connaît, qui enseigne depuis 6 ans au primaire dans une région du Québec. Puis elle aime ça, puis elle veut faire ça. Puis elle parle pas de s'en aller pour travailler ailleurs. Et en 6 ans, elle est incapable d'avoir un poste permanent. Et elle a eu son assignation définitive comme vendredi passé. Mais ce sera encore un remplacement. Tu te dis, mais est-ce qu'il manque des profs à temps plein? Pourquoi je peux avoir tel statut dans un centre de service scolaire, pas un autre? Et comment il faut attendre toujours à la dernière minute? Donc, est-ce qu'on va... Puis là, j'en ai parlé avec le ministre Drainville la semaine passée. Ça veut-tu dire jumeler des groupes? Est-ce que ça veut dire prendre des profs, par exemple, et qui sont temps partiel, les amener temps plein. Donc, il y a une gymnastique qui sera importante. Et je vois ce matin dans Le Devoir qu'il manque 230 éducatrices. C'est à peu près 10% là, des postes pour ce qui est du service de garde. Et donc, des gens qui sont, je le disais la semaine dernière, plus ou moins intéressés parce que ce sont des horaires brisés et puis pas tellement payants. Alors, malgré tout ça, on va se souhaiter quand même une bonne rentrée scolaire. Il y a une étude de Statistique Canada qui est analysée par Francis Veille dans la presse de ce matin, qui est assez intéressant. Je vais pas me perdre dans les chiffres, je vais regarder les tendances de fond. La première tendance, elle est, je dirais facilement, compréhensible. Et ça porte sur l'immigration. Quelqu'un qui immigre au Canada, la première vague, c'est toujours extrêmement difficile sur le plan économique de se trouver un emploi, de faire reconnaître ses compétences. C'est pas simple. Des gens qui pourraient faire plus, qui, pour toutes sortes de raisons, se trouvent dans des emplois moins payés. Donc, c'est une première réalité. Ça va habituellement mieux pour les enfants issus de ces couples, donc la deuxième génération. Puis c'est encore plus vrai pour la troisième génération. Mais ce qu'on remarque, avec toutes les nuances qu'il faut faire, parce qu'il y a des enjeux statistiques, il faut pondérer un certain nombre de choses. Mais ce qu'on remarque, c'est que c'est plus difficile pour les Arabes, pour les Noirs et pour les Latinos. Et ça varie d'une province à l'autre parce que dans chaque province, par exemple, la Colombie-Britannique va attirer beaucoup d'immigrants venant d'Asie. Au Québec, les critères d'immigration font en sorte qu'on se retrouve avec plus de gens qui viennent du Maghreb, par exemple, donc des Arabes, et plus de gens qui sont issus de pays francophones, d'Afrique, où on peut ajouter Haïti. Bref, il y a comme, dans les deux cas, beaucoup de gens. Et il est clairement démontré, donc, dans ces chiffres, que les Blancs qui émigrent se retrouvent en meilleure position que les autres. Donc, quand on est racisé, c'est extrêmement difficile. Et ça, je l'entends souvent. Je prends beaucoup de taxis, je parle avec beaucoup de chauffeurs. Et pas juste des taxis, là, mais des gens qui m'arrêtent sur la rue, qui sont des immigrants de première génération, qui l'ont eu pas simple. Là. Et qui disent, au moins, je me suis défoncé pour trouver de l'argent, faire travailler mes enfants. Donc, payer pour leurs études, dans l'espoir qu'ils vont avoir un meilleur sort que le mien. Et statistiquement, c'est assez démontré. Je rappelle que ça arrive au moment où on apprenait en fin de semaine les services qui sont complètement submergés, les demandes en immigration en raison du nombre de réfugiés, puis il y a des coûts pour le Québec remboursés par le fédéral. Mais on sait que M. Trudeau a un grand discours en disant il faut 500 000 personnes par année, mais il y a un paquet de réalités autour. Et on pourrait parler du logement, de l'emploi, mais strictement, la capacité de pouvoir traiter les dossiers, faire en sorte que les gens ne pourrissent pas sur des listes d'attente, puis que des gens doivent quitter. Puis quand on parle de racisme qui existe, on a vu en fin de semaine cet événement qui se passe dans un magasin Jacksonville en Floride. C'est un jeune dans la vingtaine qui est abreuvé de propagande contre les Juifs, donc antisémite, qui est armé, Glock, AR-15, qui dans un premier temps se serait dirigé vers un collège, aurait été vu par un agent de sécurité, puis serait reparti vers ce magasin, espèce de magasin à 1$, là, et a ciblé des Noirs. Donc, des clients, mais aussi un employé du magasin. Ça a duré, je le disais, 11 minutes, et il a fait le tri des gens. Il demandait aux clients blancs puis aux employés, « Voulez-vous sortir? » Puis il les dirigeait vers la sortie. Et finalement, il s'est enlevé la vie quand les policiers de Jacksonville ont débarqué. Et ce racisme-là, on l'a vu à plusieurs reprises, les Noirs, les Juifs, qui sont très souvent ciblés. Toronto, en fin de semaine, la GRC qui parlait justement de groupes souvent venant des États-Unis qui arrosent le Canada de cette propagande et de ces images qui, en principe, ne sont plus accessibles sur les réseaux sociaux, mais qui demeurent quand même facilement trouvables sur le web. Rapidement, dans les autres nouvelles, Journal de Montréal, ce matin, il y a encore plus de plaintes qu'avant de sextorsion. Est-ce que ça veut dire que les gens portent davantage plainte à la police? Peut-être. Mais on rappelle, puis c'est le début de l'année scolaire, puis on sait que beaucoup de jeunes, souvent, ne diront pas, partageront pas ce qu'ils vivent et vont se faire enfirouaper pour avoir travaillé là-dessus pas mal. Puis je sais que les gens de l'exploitation sexuelle des enfants au SPVM travaillent très fort. Marco Breton et toute son équipe. Alors, on remarque donc une augmentation importante, puis il y a des trucs à suivre là, pour éviter d'être piégé. C'est dans le Journal de Montréal ce matin. Je vais vous parler des restaurants, mais on va en reparler tantôt. Je ne sais pas si mes observations, qui sont pas basées là, sur un sondage, mais ce que je lis des auditeurs et des auditrices, ce que j'entends aussi de conversations, ça commence à être de plus en plus difficile dans les restaurants au Québec, les restaurants de Montréal. Parce que ça coûte cher. Et là, c'est la rentrée scolaire, puis les dépenses, les comptes de carte de crédit de l'été rentrent, puis il y a des enjeux, évidemment, pour la rentrée scolaire. Taux d'intérêt. Moi, on m'explique qu'il y a des restaurants très connus à Montréal, disons moyen de gamme et haut de gamme, qui, le samedi soir, sont pratiquement déserts. Pas grand monde. C'est pas parce que c'est pas bon. C'est comme si la clientèle manquait. Et que des endroits où ça prenait du temps avant pour réserver, c'est maintenant plus facile. Des fournisseurs qui font affaire avec des chaînes de restauration rapide ont vu leurs commandes baisser de 20-25%. La demande est moins forte pour le emporter parce que ça coûte trop cher. Je comprends qu'il y aura la période des fêtes, là, mais disons que c'est une rentrée pour beaucoup de restaurateurs qui, j'ai l'impression, est pas facile en raison des prix élevés. Puis les gens font des choix, vont manger plus à la maison, vont sortir moins souvent, vont y aller pour des occasions, pour manger quelque chose qu'ils sont pas capables de se faire. Mais tu sais, la sortie détente tout court, qui coûtait pas trop cher, puis qui était agréable, ça devient, pour beaucoup de consommateurs, un enjeu. Alors, je sais pas si vous avez observé la même chose, mais moi, j'ai vu des commentaires en fin de semaine, des collègues aussi qui me racontent ça. Va être intéressant à suivre. Également, dans les autres nouvelles, il y a les banques canadiennes qui sont accusées, c'est un dossier de la presse canadienne, là, de ne rien faire dans la lutte au changement climatique, malgré les discours là, que toutes les banques ont, nous sommes verts et nous sommes préoccupés, mais continue finalement d'encourager des entreprises qui, justement, polluent. Et juste vous dire, je reviens dans la presse ce matin parce qu'on apprend, je savais pas ça, la Suède a besoin d'électricité, a besoin d'énergie. Et on le sait avec les véhicules électriques qui, évidemment, occupent de plus en plus de place sur le marché. Puis là, on se rend compte que les éoliennes, c'est bien beau, que les autres formes comme le solaire, c'est intéressant peut-être, mais ça ne permet pas d'atteindre des objectifs. Donc, la Suède, qui est en train de renouer avec l'idée du nucléaire, avec évidemment des inconvénients, là. On en a parlé il y a quoi, deux semaines avec le ministre Fitzgibbon, ça fait partie de la réflexion d'Hydro-Québec. C'est pas pur, le nucléaire, là. Il y en a qui nous présentent ça comme une source verte. Il y a beaucoup d'enjeux de gestion de déchets. Mais même un pays qui est souvent notre pays baromètre, on aime voir ce qui se passe là-bas, ben on se rend compte finalement qu'eux aussi sont en train de penser à ça. Et puis, je veux finir avec les décès de la fin de semaine. On a appris, bon, Yvon Pedneau, je vais en reparler avec Alain tantôt, c'est un gars qui est évidemment Monsieur Hockey, faisait partie de ce fameux trio Bertrand Raymond, Yvon Pedneau, Régent Tremblay, qui était à la fois en forte et vive compétition, mais en même temps qui sont tous des icônes dans le monde du hockey. Puis Yvon a travaillé partout. C'était pas un ami, mais je l'ai croisé, côtoyé dans plusieurs circonstances. Un gars qui avait un rire très communicateur, puis d'apprendre en fin de semaine, sans trop être préparé. Je lisais Michel Baudry ce matin dans le journal. Michel a travaillé avec. C'était son gars du sport quand Michel faisait l'émission du matin. Puis son straight man, comme on dit, quand il faisait ses capsules d'humour. Je pense que tout le monde a été un peu sous le choc. Cancer fulgurant. On a appris aussi le décès de Bob Barker, 99 ans, qui a animé The Price is Right. Et c'est un défenseur de la cause des animaux. Et quelqu'un peut-être moins connu qui s'appelle Denis Lepage, qui était un des fondateurs de la musique disco à Montréal avec le groupe Lime et un paquet d'autres groupes. Ça rappelle peut-être des souvenirs, mais un des points majeurs qu'il faut souligner, c'est que Lepage et sa conjointe Denise ont été pas mal les précurseurs. Et ce sont des hits là, qui tournaient au Limelight. Et le Limelight, ça a ouvert ses portes en 1973, c'est-à-dire 4 ans avant le fameux studio 54 à New York. Ce qui est pas rien, là. Donc, lui aussi décédé des suites d'un cancer à l'âge de 74 ans.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcan.
Il y a beaucoup de questions qui reviennent depuis la fin de semaine suite à ce drame terrible à Notre-Dame-des-Prairies. Alors, on vous le disait, cet homme qui tue ses deux enfants avant de s'enlever la vie. D'abord, la première question, c'est pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'en prend aux enfants? Il n'y a pas de réponse vraiment claire à donner à ça. Est-ce que c'est un problème de maladie mentale? La plupart des experts vont vous dire non. Et troisièmement, pourquoi si la police l'a arrêté 48 heures avant le drame, pourquoi est-ce qu'on l'a remis en liberté? J'en parle d'abord avec Maître René Verret, qui a été procureur de la Couronne, qui est maintenant en défense, avocat spécialisé en droit criminel. Et je rappelle qu'il était à la Couronne lors du deuxième procès de Guy Turcotte. Maître Verret, bonjour.
Oui, bonjour, bon matin.
Je vous pose d'abord la question technique là, que beaucoup de gens m'ont envoyé par courriel. Quand les policiers arrêtent quelqu'un, pourquoi est-ce qu'on le remet en liberté? Pourquoi ça s'est fait de cette façon-là?
Ben, les policiers vont évaluer différents détails ou critères, mais notamment, est-ce que c'est une personne qui a un dossier judiciaire ou pas? Quelles sont les infractions pour lesquelles on l'enquête, on l'arrête? Est-ce qu'il y a vraiment une menace pour, effectivement, sa conjointe, les enfants et tout ça? Ce sont donc des critères que les policiers vont évaluer pour prendre la décision. Mais ultimement, normalement, les policiers doivent remettre une personne en liberté, à moins que les policiers aient des motifs raisonnables de croire que cette personne pourrait être dangereuse ou violente.
Dans les cas de harcèlement entre conjoints ou ex-conjoints, avec votre expérience, parce que j'entends beaucoup de femmes dire on le remet en liberté, il recommence, la police peut pas être tout le temps là, il n'y a pas assez souvent d'accusations. Autrement dit, c'est comme si on fait, je dirais pas confiance, mais on n'a pas une ligne très, très dure face à des gens qui harcèlent ou qui font des menaces.
Mais dans le cas de cet homme, M. Arquin, c'est un homme, on le sait, qui avait 46 ans, qui n'a pas de dossier judiciaire. Sans banaliser l'accusation d'harcèlement, ce qu'on comprend, c'est qu'il n'y avait pas d'éléments qui faisaient en sorte que les policiers avaient des craintes par rapport aux enfants ou par rapport à leur sécurité. C'est donc, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, c'est un peu étonnant, c'est renversant, c'est choquant de constater qu'il y avait un conflit évident avec son ex-conjointe, mais il s'en prend aux enfants. C'est ce qui est épouvantable dans cette affaire-là. Et comme vous l'avez dit, moi, c'est pas sans me rappeler l'affaire Turcotte, c'est exactement la même chose. Alors, cet homme-là avait un problème avec son ex-conjointe et il s'en prend à ses enfants. C'est ce qui est choquant, justement.
Je fais appel à vos souvenirs du dossier Turcotte, parce que tout le monde a pensé à ça en fin de semaine. Dans le cas de Turcotte, lui a survécu, entre guillemets, là. Qu'est-ce que vous retenez des motivations? Dans le cas de Turcotte, là, je comprends le problème avec son ex-conjointe, mais pourquoi s'en prendre aux enfants?
Ben écoutez, j'ai pas la réponse, M. Arquin, vous l'avez si bien dit. Je veux dire, c'est renversant, c'est choquant. On n'a pas de réponse à ces questions-là, malheureusement. D'autant plus que Turcotte n'a jamais exprimé de remords ou de regrets. Alors, on n'a jamais vraiment pu savoir, même de sa part à lui, pourquoi il avait posé des gestes aussi graves que ceux-là.
Mais il plaidait le trouble d'adaptation.
Ben, il a plaidé ça, mais effectivement, ça n'a pas réussi. Alors, il a tenté de le faire, mais comme le psychiatre Blot l'avait aussi mentionné, le trouble d'adaptation, c'est vraiment au plus bas des maladies mentales. Il y en a plusieurs maladies mentales, effectivement, qui sont bien documentées, mais celui-là, c'est vraiment le plus bas et ça n'a pas réussi au procès, on le sait.
Vous avez été impliqué dans d'autres dossiers. Là, je ne sais pas combien il y avait de cas qui impliquaient comme ça des meurtres d'enfants, mais je sais que pour avoir parlé à des psychiatres, l'espèce de réflexe qu'on a, ben c'est quelqu'un qui a une maladie mentale. C'est rarement le cas, non?
Ben, vous l'avez dit, c'est effectivement rarement le cas, d'autant plus que cet homme-là, d'après les informations qu'on avait, et son ami l'a bien dit, il n'y avait pas de drapeau rouge, zéro violence en gestes ou en paroles. Lui-même a dit, son ami, jamais je me serais douté qu'il aurait pu faire ça. Donc, vous voyez, même les gens près de lui n'avaient pas de raison de douter que cet homme-là puisse causer des gestes aussi graves que ceux-là.
Maître Verret, merci d'avoir été avec nous.
Merci.
Au revoir. René Verret est avocat maintenant en défense, a été à la couronne, s'occupait, en fait, a piloté le dossier de Guy Turcotte. Puis rappelons-nous, Turcotte, là, il y a eu un deuxième procès et le psychiatre Blot, qui est maintenant le grand patron de la psychiatrie au Québec, avait démontré que le trouble d'adaptation, là, c'est pas une maladie. C'est pas parce que tu as de la difficulté à t'adapter à un niveau, à ta nouvelle vie de parents séparés, que ça explique que tu as perdu le contrôle puis que tu as tué tes enfants. Et c'est sur cette base-là, entre autres, que cette fois-là, il avait été condamné. Mais veux pas, quand arrive un événement comme celui-là, on se dit, mais pourquoi il s'en prend aux enfants? Il harcèle la mère. Non seulement du harcèlement, mais il veut tout savoir. GPS, il veut la faire suivre. Qu'est-ce qui fait que cette fois-là, il cible la mère et cette violence qu'il a, quand il explose, se tourne contre les enfants? Claudine Thibodeau est avec nous. Elle est du mouvement SOS Violence Conjugale. Madame Thibodeau, bonjour.
Bonjour.
Beaucoup de questions pour vous ce matin. La première, vous avez travaillé avec des femmes qui ont été dans cet univers de la violence conjugale. Est-ce que vous arrivez à comprendre pourquoi quelqu'un dans une séparation qui vire mal, une relation toxique, ce sont les enfants qui deviennent les victimes? La femme l'est aussi, là, mais les enfants qui sont la cible.
Mais écoutez, on voit souvent dans les situations de violence conjugale, que ce soit pendant la relation ou après, que les enfants sont utilisés comme proxy, les enfants sont utilisés comme cible de la violence pour frapper la victime. Donc là, on a vu l'ultime acte de violence par proxy aux enfants qui vise, dans le fond, puis là, je connais pas la situation, cette situation si intimement, mais de façon générale, on peut penser que c'était pour se venger. C'est une vengeance. Et c'est malheureux, effectivement, quand on se centre sur des analyses ou des hypothèses de type santé mentale, comme on a pu en entendre, parce que ça donne du pouvoir à tous les agresseurs du Québec quand on fait ça. Parce que les auteurs de violence, souvent, vont se justifier eux-mêmes à eux-mêmes ou à leurs proches, à la victime elle-même, en disant « Oui, mais je vais pas bien, c'est pas moi, faut que tu me pardonnes, j'ai des problèmes de santé mentale. » Mais quand on va excuser un comportement comme ça en essayant de le comprendre, en parlant de la détresse, en parlant de quelqu'un qui souffre, on fait vraiment fausse route. Il faut plutôt voir le danger. Puis ce que ça fait, c'est que dans la vie, quand on est face à une personne qui exerce la violence, mais qui va peut-être exprimer des émotions, peut-être pleurer, peut-être, mais on va comme minimiser le danger.
Avec votre expérience, là, moi j'ai souvent vu là deux types, là, puis je me limite à ça, mais je veux vous entendre. Quelqu'un qui dit, par exemple, il y a un conflit pour la garde. Je peux pas avoir les enfants comme je veux. Ben, t'es auras pas, toi non plus. Donc, je les tue. Puis on va parler froidement ce matin, là. Puis dans d'autres cas, c'est comme, ce sont les êtres que t'aimes le plus et ultimement, je vais me venger en te privant de leur présence.
Ben, dans un contexte comme ça, ce qu'on voit souvent, c'est que les enfants deviennent des instruments. Ils sont instrumentalisés. C'est pas une bonne relation parent-enfant, ça. Hein? Quand on a des enfants, c'est pas nos instruments. On doit vraiment avoir une relation qui est pure, je dirais, là, où on est là pour s'en prendre soin, pour les amener à l'âge adulte, on les aime. Puis c'est sûr que quand on a des enfants, on peut pas comprendre ça. Fait qu'il faut qu'on aille dans les idées qu'il y a un problème de santé mentale parce qu'on se dit, mais je serais jamais capable de faire ça. Mais dans un contexte de violence avec quelqu'un, puis là, on connaît pas toute l'histoire.
Non, non, c'est sûr.
On connaît pas toute l'histoire, mais je serais très surprise en voyant que post-séparation, il a mis des micros chez son ex, il a mis un GPS sur son auto. Je serais extrêmement surprise qu'il n'y ait pas eu de violence avant la rupture, qu'il n'y ait pas eu de contrôle coercitif parce que c'est extrêmement contrôlant là, ce qui a été fait post-séparation. Donc, c'est sûr qu'il y en avait avant. Donc, c'est quelqu'un qui, de façon probablement tout le temps, agit de façon à créer une emprise. Puis à ce moment-là, les enfants deviennent des outils. Ils sont instrumentalisés. Donc, lui, il n'était pas dans l'amour là, par rapport à ses enfants. Il était dans mais ils me servent à quelque chose. Les enfants sont souvent utilisés pour piéger la victime dans la relation.
L'autre chose, quand il n'y a pas d'enfant comme enjeu dans une séparation, c'est-à-dire que les deux ex-conjoints n'ont pas à entretenir de façon générale une relation. Ils peuvent prendre la route qu'ils veulent chacun de leur côté. Mais quand il y a des enfants puis qu'on doit maintenir une relation, quel conseil vous donnez à une femme, par exemple, qui dit « OK, la rupture a pas été facile, mais il faut qu'on garde le contact pour le bien des enfants. »
Ben, moi, ce que je recommande, quand il y a une situation de violence, nous, à SOS, on suggère toujours aux victimes d'aller chercher de l'aide, de parler avec une intervenante spécialisée pour planifier vraiment c'est quoi le risque qui existe dans cette situation-là, puis c'est quoi qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire ce risque-là. Ça peut impliquer des décisions de prendre, par exemple, de porter plainte. Ça peut impliquer la DPJ dans certaines situations. On peut organiser les communications et les échanges, les baliser le plus possible pour laisser le moins possible de place à un auteur de violence de continuer d'exercer de la violence. Mais c'est sûr que quand il y a des enfants, tu sais, on a érigé un mur entre la victime et l'auteur de violence avec la rupture. Il peut moins l'atteindre, hein? Donc, qu'est-ce qui reste pour l'atteindre? Il y a deux grands moyens qui sont utilisés souvent chez les enfants. Et l'argent. Donc, plus on va baliser ça, plus on va rendre ça, plus on va fermer les trous là, qui lui permettent d'atteindre la victime et en même temps les enfants. Puis il y a une chose aussi, quand il y a des comportements de violence post-séparation, on devrait considérer que c'est des mauvais traitements aussi à l'égard des enfants. Et à la limite, mettre des freins au lien avec les enfants, que ce soit par exemple des rencontres supervisées, pour un certain temps, tant et aussi longtemps que l'auteur de violence ne va pas reconnaître qu'il y a eu ces comportements-là, puis s'engager réellement à cesser. C'est pas vraiment comme ça qu'on fonctionne en ce moment. On a beaucoup de témoignages à SOS de femmes qui sont séparées depuis plusieurs années et que la violence se poursuit. Et même parfois, ces femmes-là sont pas nécessairement comprises par le système. On va leur dire, ben là, madame, revenez-en. Ça fait longtemps que vous êtes séparées. Là, oui, il était peut-être violent avant la rupture, mais là, c'est devenu un conflit de séparation. Non! C'est pas un conflit de séparation. C'est de la violence post-séparation et il faut agir pour protéger la victime. En violence conjugale, la rupture, c'est pas toujours le moment où il va y avoir moins de violence. Après, ça peut augmenter dans certaines situations. À moyen terme, c'est souvent une façon de se protéger de la violence, mais il y a une période qui peut être de quelques mois, mais qui peut aussi être de quelques années, qui dépend entièrement de la volonté de l'auteur. Hein. C'est lui qui décide d'agir comme ça. Puis dans notre société, il faut mettre des freins à ça. Il faut mettre des règles.
L'autre question que je me pose, et puis là, je peux être dans le champ complètement, là, mais je me dis, quelqu'un qui pose un geste d'une violence comme celui-là, là, tuer des enfants, tuer l'ex-conjointe, ou blesser les enfants, blesser l'ex-conjointe, ça peut pas être la première fois qu'il pose un geste violent contre ses enfants ou contre l'ex-conjointe.
Ben non.
Il y a un processus, je veux dire, tu dirais pas qu'il y a un crescendo, là, mais il y a eu des événements avant ça, là.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle l'escalade en violence, le crescendo. Oui, c'est pour ça que je vous disais tantôt, on n'a pas l'histoire avant la rupture de cette situation-là, mais je serais très, très, très surprise qu'il n'y avait pas déjà un contexte de contrôle coercitif de violence conjugale. Et souvent, ce qu'on voit, c'est que quand une victime va retrouver du pouvoir sur sa situation, ou en tout cas, qu'elle va essayer, ben, l'auteur de violence va augmenter, il va faire un crescendo sur l'intensité de ses comportements. Puis là, on sait qu'elle avait porté plainte pour les comportements d'avoir mis un micro et un GPS sous sa voiture. Et porter plainte, c'est une façon de retrouver du pouvoir hein, sur l'auteur de violence pour qu'il cesse. Moi, j'ai l'impression que ça a été sa réaction à cette reprise de pouvoir-là. Il a fait un crescendo qui est allé jusqu'à tuer ses enfants. On s'entend, ouais. C'est la pire chose. Hein. C'est la pire chose qu'il pouvait lui faire.
Madame Thibodeau, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Claudine Thibodeau est de SOS Violence Conjugale. Je veux juste conclure ce volet en disant, l'idée n'est pas de minimiser le geste opposé, au contraire, en disant le pauvre gars était malade ou était déprimé, ou pas du tout. Il y a des gens qui ont des moments difficiles dans la vie, qui ont des moments dépressifs, mais il y a une différence entre être mal dans sa peau puis traverser difficilement une épreuve puis poser des gestes de cette violence. Puis quelle est l'intention derrière, tu sais? On ne saura jamais vraiment parce que le gars est décédé. Puis comme disait Maître Verret, dans le cas de Turcotte, pas trop de remords, puis on n'a jamais su exactement pourquoi il s'en était pris comme ça à ses enfants.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand.
C'est semaine de rentrée scolaire, ça commence aujourd'hui tranquillement et ça va, selon les centres, varier un peu, mais c'est donc le retour en classe. On a une préoccupation particulière pour le primaire et le secondaire, puis vous avez vu comme moi, bien sûr, depuis 10 jours maintenant, ce constat qui est fait qu'il manque du monde partout. Les profs, personnel de soutien, services de garde. Alors, il y a des parents qui se disent, ça va se passer comment dans l'école? Kathleen Morel est avec nous. Elle est la directrice générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries qui couvre le territoire, entre autres, là, de Châteauguay-la-Prairie et Napierville. Madame Morel, bonjour.
Bonjour, Monsieur Arcand.
D'abord, il vous manque combien de profs pour la rentrée à ce moment-ci?
Les chiffres que je vais vous donner à cette heure-ci seront plus bons dans les prochaines heures. Là, on est conscient de ça. Je veux juste faire un avertissement à tout le monde.
Okay.
Parce qu'on est en recrutement intensif. Donc, actuellement, il nous manque 36 tâches d'enseignants à pourvoir. Ces 36 tâches-là, c'est 16 postes réguliers, puis on a 12 remplacements à temps plein et 8 remplacements là, qui sont à temps partiel. Actuellement, le portrait, c'est qu'il y a 75 % de nos 52 établissements primaires et secondaires qui ont trouvé tous leurs enseignants. Donc, on continue à travailler avec ceux qui leur restent quelques postes et tâches à pourvoir. Mais on a bon espoir, on a des plans B à peu près sur toutes les cas de figure là, pour s'assurer que les services soient organisés pour accueillir nos élèves là, cette semaine.
OK. Sur tous ces postes comblés, là, quel est le pourcentage de profs non officiellement reconnus avec le bon diplôme? Autrement dit, des professeurs qui n'ont pas un bac en enseignement, mais qui vont être dans vos classes.
Oui. En fait, ce chiffre-là, à ce moment-ci de l'année, je m'avancerai sur aucun chiffre. Mais bon an, mal an, à chaque année, on a autour de 230 enseignants qui ne détiennent pas un brevet d'enseignement. C'est ce qu'on appelle là des enseignants non légalement qualifiés. Mais il faut comprendre que ces enseignants-là, ils ont un bac. Ce qu'on fait avec ces enseignants-là, ben on les forme à l'emploi. On fait de la formation à l'emploi en leur offrant un programme d'accompagnement, de soutien, de formation pour s'assurer que la planification des apprentissages puis l'évaluation des apprentissages bien, soit faite en conformité avec le programme d'études.
Mais à quel moment ils suivent leur formation si on les embauche à la dernière minute?
En fait, il y a plusieurs enseignants qui n'ont pas de brevet qui reviennent d'une année à l'autre. Donc, dès le mois de septembre, donc dès les journées pédagogiques, ceux qui sont nouveaux dans notre organisation, on fait du pairage avec du mentorat, avec du coaching. Maintenant, j'ai vu des écoles passer à travers la pandémie. Puis je dis passer, là, parce qu'on s'entend que cette pénurie, pas la pandémie, j'ai vu des écoles passer à travers la pénurie. Faut pas se tromper ce matin. J'ai vu des écoles passer à travers la pénurie. Et s'en sortir parce qu'ils ont organisé au plan pédagogique et structuré au plan pédagogique. Je m'explique, quand une école organise, planifie les apprentissages en équipe niveau, donc les profs, exemple, de deuxième année travaillent ensemble pour planifier la progression des apprentissages, planifier les situations d'évaluation, bien c'est sûr que tout ça, ça fait en sorte que quand j'accueille un novice, une enseignante qui a un brevet, mais qui est novice dans la profession. Un enseignant qui n'a pas de brevet, mais qui a un bac connecté à la formation, ben ça aide à l'entrée en fonction de ces personnes-là.
Okay,
donc, la formation se donne tout au long de l'année.
OK. L'autre question. Comment ça se fait qu'il faut attendre à la dernière minute? C'est comme si, à partir du 15 août, là, c'est un décompte. Puis là, tu dis, mais là, il en manque 8000. Deux jours après, il en manque tant. Vous me dites, je vous donne des chiffres, mais dans une heure, ça va être différent. Comment ça se fait que c'est à la dernière minute comme ça?
Oui, on est obligé de finaliser l'organisation des groupes au mois d'août pour répondre aux besoins de chaque élève qui s'inscrit dans nos écoles. Mais une entrée scolaire, ça commence au mois de janvier à se préparer. Je vais juste prendre quelques instants pour démystifier ce processus-là parce que j'entends beaucoup de choses, là, que c'est trop complexe, que c'est bureaucrate, puis que c'est technologue, puis etc. Moi, j'ai des équipes extraordinaires qui, à partir du mois de janvier, des équipes écoles qui font des choix pédagogiques. Ils disent, on va mettre en place un nouveau programme, on va changer le nombre de périodes attribuées en anglais. Bref, ils font des choix pédagogiques pour répondre aux besoins. Et là, à partir de là, les écoles ben, vont avoir un portrait de dire j'ai besoin de combien de profs. On arrive au mois de février, la période d'inscription se fait officiellement. Et là, les chiffres de la clientèle bougent jusqu'à maintenant, M. Arcand. Je vous donne des exemples concrets.
Oui, mais Mme Morel, moi je comprends, là, mais vous avez quand même une base d'élèves qui revient chaque année. Là. C'est-à-dire que c'est pas vrai que c'est une grosse surprise que soudainement, après la période de déménagement, là, c'est pas 80 % d'élèves de plus ou de moins. Là.
Non. Nous autres, au mois de juin, là, on avait environ 800 au primaire, là, on avait prévu ouvrir 813 groupes. Puis, à l'heure actuelle où on se parle, on est à 841 groupes. Donc, ça bouge.
Non, je comprends que ça bouge. Mais savez-vous quoi? Je pense qu'il y a un petit peu de bureaucratie quand même dans ça. Puis je vous donne des exemples, là, puis je dis pas que c'est dans votre centre de service. Mais dites-moi une chose. Est-ce que c'est possible, actuellement, pour un prof, de pas avoir de permanence chez vous, puis d'en trouver une permanence au centre de service à côté?
Oui. Parce que l'attribution des tâches aux enseignants, ça se fait pas uniquement à partir du mois d'août. Comment ça fonctionne? C'est qu'au mois d'avril, je viens de vous expliquer que les écoles font des choix pédagogiques. Et là, au mois d'avril, ils nous envoient, on appelle ça des surplus de profs. On dit, on va avoir tant et moins besoin de profs en mathématiques, je vais avoir un surplus, etc. Et là, nous autres, on regarde le portrait de tout le centre de service scolaire et L'idée, c'est qu'au mois de juin, tous les profs permanents ont leur attribué leur poste, leur tâche. On s'est assuré que tous les profs permanents sont replacés dans notre centre de service scolaire. Quand on a fini l'année, au mois de juin, il nous restait 117 postes réguliers à pourvoir. Donc là, j'arrive au mois d'août, la clientèle a évolué. Je suis obligée d'attendre au mois d'août pour être en mesure d'avoir le portrait le plus fidèle possible. Et là, au mois d'août, j'offre les postes à tous ceux qui font partie de notre banque et à tous ceux qui font partie de notre liste de priorités. Donc, à partir du 15 août, tous ceux qui sont sur la liste de priorités ont accès à des postes, mais il m'en reste encore. Et là, je pars en affichage et donc, il y a des enseignants qui sont dans d'autres centres de services scolaires qui peuvent postuler et accéder à des postes. Donc, c'est à partir du moment où j'affiche à l'externe que les enseignants peuvent venir chercher des postes.
OK, mais justement, Mme Morel, il y a une semaine parce qu'il faut afficher. Il faut attendre de voir s'il y a une réponse. Il y a une certaine lourdeur dans le processus.
Bien, c'est sûr que on est en pénurie,
oui,
mais on veut s'assurer, on veut quand même s'assurer de mettre la bonne personne bon endroit.
Mais là, on est d'accord. Je comprends tout ça, là, mais l'idée, c'est de constater quand même, moi, ce que je vois, là, puis comme je vous dis, vous êtes pas c'est pas que c'est dans votre centre, mais des profs retraités qui me disent ce matin qu'ils ont affaire puis qu'ils ont même pas de retour d'appel. Il en manque-tu ou il en manque pas? Il y a des jeunes profs qui sont là depuis 6 ans puis qui sont pas capables d'avoir dans un centre une permanence. Il y a des gens qui sont des enseignants qui ont offert de rester, de prolonger la retraite. On leur a dit non. Je veux dire, il y a quelque chose qui tourne pas rond, là, à 100%.
Le recrutement, puis nous, on a appelé ça l'opération Grande Séduction, là. Pour être en mesure de centraliser toutes les candidatures et tous les besoins des écoles, on a mis en place une application qui s'appelle Scolago qui est disponible sur notre site Internet. Tous ceux qui souhaitent postuler, déposer leur candidature, le font dans cette application-là. Et les candidatures peuvent voir ce qui est affiché, ce qui est disponible comme besoin de tâches. Et les écoles voient également toutes les candidatures. À chaque année, on fait des post-mortems sur la façon qu'on a fait les choses. On souhaite améliorer nos façons de faire. C'est pas parfait, là, monsieur.
Non, Arcache, mais je veux juste poser une question.
Je mets pas la tête dans le sable.
Non, OK, parfait. Pose une question technique. Les contrats, là, c'est au mois d'août, vous les donnez, hein, c'est ça?
Les contrats, oui. Okay. La deuxième semaine du mois d'août.
OK. Avant, est-ce que c'était au mois de juin?
Non, ça a toujours été, nous, notre entente locale a toujours été au mois d'août.
Avant, c'était pas au mois de juin?
Non.
OK, mais dans d'autres cas, est-ce que ça aurait pu être au mois de juin?
Dans d'autres centres de service scolaire?
Ouais.
Peut-être parce que ces processus-là sont convenus au niveau local, comme on appelle, dans l'entente locale là, avec les syndicats.
OK, vous, ça peut être au mois d'août, puis ailleurs, ça pourrait être au mois de juin.
Écoutez, j'ai pas le portrait national. Là.
Non, mais ça montre que c'est compliqué. C'est ça que je veux.
Ben,
OK.
C'est pas compliqué.
Arrêtez-moi ça.
Je comprends que ça peut sembler compliqué. Maintenant, on fait ça. Moi, je suis une passionnée. Là.
Non, je n'ai pas votre passion. Mais quand ça ressemble à un cheval, quand ça se comporte comme un cheval puis que ça sent le cheval, c'est pas un chat.
J'adore cette approche-là. Okay. Un chat, c'est un chat.
Okay,
je ne mets pas la tête dans le sable.
Parfait.
C'est sûr et certain qu'on a des défis avec le nouveau contexte.
Parlez-moi en terminant des services de garde. Là. Ça ressemble à quoi chez vous? Il vous manque combien de personnes?
Chez nous, à l'heure actuelle, on a 70 tâches de services de garde à combler. Et ça touche 14 écoles sur les 35 écoles primaires. Donc, on a 65% de nos écoles primaires, 60% de nos écoles primaires là, qui ont pourvu toutes les tâches de services de garde.
Ma question va être très simple. Je suis un parent là qui fait affaire avec votre centre de service là, de Grande Seigneurie. Est-ce que ça se peut que j'ai des enjeux de services de garde dans les prochaines semaines?
En fait, je vais répondre oui.
Okay.
Parce que je peux pas affirmer haut et fort que actuellement on craint pas qu'il y ait un bris de service.
Mais il pourrait y en avoir un.
Ben, il pourrait en avoir un. Maintenant, ce que la pandémie nous a amené à faire, c'est d'être bon dans des plans de contingence. Donc, c'est sûr que notre préoccupation, c'est de pas informer le parent le matin même qu'il n'y a pas de service de garde. Donc, si jamais on se retrouvait dans ce scénario-là, il va y avoir de l'information donnée aux parents. On va tout faire pour être en mesure de ne pas arriver là, mais si on arrive là, on va prendre soin d'informer le parent parce qu'on sait que c'est assez complexe, là, réorganiser son enfant quand on est une famille.
Oui, c'est clair. Merci, Mme Morel. Au revoir.
Ben, un grand merci. Merci beaucoup.
Bonne journée. Kathleen Morel est la directrice générale du Centre de services scolaires des Grandes Seigneuries. Puis quand je parle des enjeux pour les parents, il y a aussi le transport scolaire. On l'a vu l'an dernier, là, il y a eu des conflits, mais aussi des pénuries de chauffeurs, ce qui a amené les centres de services à informer les parents que, ben, aujourd'hui, il n'y aura pas de transport. Organisez-vous où il n'y aura pas de transport au retour, où il n'y aura pas de transport du tout. Et souvent, donc, ajustement après ajustement, Josée Dubé est avec nous. Elle est conductrice d'autobus scolaire depuis 19 ans et la présidente du secteur de transport scolaire, justement, à la CSN. Madame Dubé, bonjour.
Bonjour, M. Arcand. Merci pour l'intérêt.
Ben oui, parce que l'intérêt est aussi beaucoup des parents. Oui. Le transport scolaire, c'était comme un service où on se questionnait pas trop, là, dans la mesure où, oui, il y a eu des conflits dans le passé, j'en ai vu, là. Mais là, c'est un mélange de pénurie, mélange de conflits de travail. À la CSN, là, est-ce que quand vous regardez, là, je pense qu'il y a 65 syndicats, là, qui sont dans le transport scolaire, 3000 membres.
Oui.
Avez-vous beaucoup de postes à qui manquent, là, en fait, des postes à combler?
Énormément. On entend parler, beaucoup des compagnies sont à moins 10, moins 5 chauffeurs, moins 15 chauffeurs, dépendamment évidemment de la grosseur de la compagnie. Mais oui, c'est vraiment généralisé, c'est partout. Mais il y a une raison, mais il y a plusieurs raisons à ça. Il n'y a pas juste, là. En tout cas, dans notre cas, là, la pénurie de main-d'œuvre, elle ne peut pas tenir nécessairement juste comme ça. Des retraités, parce que la FTA s'amuse à dire que le profil est le retraité. C'est un peu plate comme pensée parce que ça veut dire c'est le cheap labor. Tu sais, le retraité, lui, là, on peut le payer pas trop cher. L'argent, elle est là. La FTA, l'année passée, a revendiqué de l'argent de plus au gouvernement parce qu'ils pouvaient pas bien payer leurs chauffeurs. Le gouvernement a donné l'argent entre 15 et 30 %. L'argent, elle est là, elle est dans les poches des transporteurs. Puis là, eux, ils la gardent. Évidemment, c'est des compagnies privées. Fait que le profit est super important.
Mais juste que je comprenne, là. Un chauffeur d'autobus peut gagner entre quoi et quoi?
Ben facilement, quand ils rentrent travailler, là, quand un nouveau chauffeur, là, c'est 16 piastres et demi de l'heure. Ils sont maximum, c'est 24 piastres de l'heure à peu près. Puis ça, c'est important de dire que pour un 20, 25 heures, 30 heures. Il y en a des 35 heures, mais ça pleut pas. OK? Fait que, faites le calcul, là, vous allez être assez bon pour faire ça, là. 17 piastres de l'heure fois 20 heures, 25 heures semaine. C'est pas beaucoup. Puis là-dessus, on conduit des enfants, on conduit un véhicule lourd. Le retraité, avant, il faisait la job, là. C'était facile. Les enfants ont changé. Le système a changé. Conduire un autobus avec des enfants, c'est plus la même chose que vous le disant.
Mais je veux qu'on parle encore un peu d'argent, là, pour que je comprenne bien. Parce qu'il y a des secteurs où il y a de la négo, ça va pas. Il y a des grèves où ça marche pas. Il y a par contre d'autres endroits qui ont signé ailleurs, là, les augmentations. Ça représente quoi?
Quand on a un transporteur qui décide d'être consciencieux puis d'être conscient que lui a envie de continuer à faire rouler sa business, là, on a eu des très beaux règlements. À la CSN, là, l'année passée, là, on a eu une année, là, ça a super bien été. Il y a eu des rattrapages salariales, ça a bien été. Il y a des gens, on peut dire masse-couche, ils sont passés de 18 $ de l'heure à 24 $ de l'heure. Parce que l'employeur, il a dit, OK, là, moi, il faut que je règle le problème. Mais on a d'autres sur la rive sud, on a entendu, on a même des protocoles de retour au travail qui ont été signés par l'employeur qui n'est même pas honoré. Il y a des grèves qui ont perduré pendant plus de 3 mois, puis là, on dit, ah, les chauffeurs sont encore en grève. Non, non, les chauffeurs ne sont pas encore en grève. L'employeur, il ne veut pas négocier. C'est pas que les employés sont boqués puis qu'ils ne veulent pas continuer. L'employeur, il veut pas, il a les bras croisés, puis même avec l'ordonnance, mettons, d'un médiateur de venir s'asseoir, l'employeur, il y allait même pas, parce que lui, c'est des grosses compagnies. On a des multinationales, souvent, là, qu'on nomme pas nécessairement, mais eux, là, qui ferment une compagnie pour 30, 40 chauffeurs, ça les dérange pas.
Dites-moi en terminant, est-ce que vous prévoyez qu'il y aura encore, surtout au début de l'année, là, pour cette rentrée, des ratés dans le transport, des avis de dernière minute, que ce soit par le manque de chauffeurs ou encore par un conflit de travail?
Ah, ça, c'est sûr et certain. Le conflit de travail, il est pas prévu pour dans les premières semaines, là. Mais on a au-dessus de 30 compagnies qui vont renégocier leur convention. Puis on vous le dit, Monsieur Arcan, on est hyper solidaire avec les parents. Mais les chauffeurs d'autobus scolaires et les chauffeurs de berline, parce que eux aussi transportent nos enfants spéciaux et différents, on se laissera plus faire, c'est pas vrai. Ça fait 20 ans, 25 ans qu'on dit au gouvernement qu'il y a un problème dans le transport scolaire. Le chief labor, on est écœuré. Le retraité, il est plus capable de faire le travail ou de moins en moins parce que c'est difficile. Le 30, 40, le 50 ans, lui, il veut pas faire ça comme carrière parce que c'est pas payant. Ben là, on a dit, nous, c'est assez. Oui, il y a des pénuries, on est d'accord avec ça, mais c'est pas vrai qu'on va faire la job encore pour 18 piastres de l'heure.
Merci, Mme Dubé. Bonne journée.
Merci à vous. Bye-bye.
Au revoir. Josée Dubé est conductrice d'autobus scolaire depuis 19 ans et aussi la présidente du secteur de transport scolaire qui est affiliée donc à la CSN.
Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcan en 60 minutes. Bonne écoute.
Maintenant, Francis Vaille signale ce matin de la presse une étude de Statistique Canada concernant les immigrants, la pauvreté, le marché du travail. Et essentiellement, l'étude démontre que les personnes racisées sont les plus susceptibles de se retrouver dans une situation de pauvreté. Ça ne veut pas dire automatiquement victime de racisme. Ça veut dire qu'il y a une série d'enjeux qui font que, par exemple, un immigrant de première génération va trouver son atterrissage économique difficile. C'est peut-être plus facile pour ses enfants, puis ce sera peut-être plus facile pour ses petits-enfants. On va regarder tout ça ce matin avec M. Rachad Antonius, qui est professeur associé au département de sociologie de l'UQAM. M. Antonius, bonjour.
Bonjour, M. Arcan.
D'abord, de découvrir qu'il y a des différences entre la première génération, la deuxième et la troisième, en soi, c'est pas une grande surprise.
Non, mais ça signifie que il y a un facteur temps, adaptation, connaissance du milieu, connaissance des langues, connaissance des codes. Il y a tout ça qui joue. Donc ça, c'est un élément qu'on a toujours connu. Au bout de quelques générations, finalement, il n'y a plus tellement de différence entre les gens, puis entre les immigrants et les personnes qui sont nées là. Au bout de quelques générations. Mais il y a un autre facteur qui me semble encore plus important. Si on regarde la notion même de groupe racisé, on voit que il y a des différences très grandes entre les divers groupes. Ce qui signifie que la notion même est trop générale. Les Philippins ont un comportement économique très différent des autres, par exemple. Et après, l'étude de Statistique Canada est très bien faite et très nuancée. Et par exemple, ils étudient l'effet de diverses sortes de facteurs. Par exemple, combien d'enfants il y a dans les ménages, hein? Est-ce que ça, c'est un facteur? On se rend compte que plus il y a d'enfants dans les ménages, ben, plus il y a de pauvreté, parce que ça signifie que les parents doivent nourrir plus de personnes avec le revenu. Donc, ce qui est intéressant dans cette revue, c'est que il n'est pas possible, si on la lit comme il faut, de l'utiliser de façon démagogique. C'est-à-dire qu'il faut l'utiliser de façon nuancée et montrer que, oui, il y a des attitudes de méfiance envers les immigrants, ça, ça joue certainement, mais ce ne sont pas ça les facteurs les plus importants. C'est la structure de la famille, combien de personnes travaillent, est-ce qu'ils connaissent les langues. Ce genre de facteurs a un impact assez grand. Et, en fin de compte, les différences des taux entre la population dite blanche, je me sens guillemets, et les populations racisées sont relativement petits. Dans certains cas, ils sont plus grands, mais on sait tout de suite pourquoi. On regarde les statistiques et on voit que là où ils sont plus grands, c'est qu'il y a beaucoup plus d'enfants par famille, par exemple.
Mais on a l'impression, là, vous me corrigerez si c'est pas ça, là, mais que c'est au Québec ou au Canada, là, disons que c'est plus difficile pour un immigrant qui est d'origine arabe pour un Noir ou pour un Latino que pour un Blanc, par exemple, qui s'installe au Québec, ou pour d'autres, je sais pas moi, quelqu'un de qui vient en Colombie-Britannique, qui vient d'Asie, de Chine ou du Japon. Ça semble plus difficile si on est Noir ou Arabe au Québec.
Oui, mais ça, moi, je mettrais des nuances là-dessus.
Okay.
Pour la population noire, donc d'origine afro-américaine ou africaine ou de divers pays où la couleur de la peau est différente, il y a un facteur beaucoup plus fondamental qui est lié au racisme, à la colonisation, à la traite esclavagiste et tout ça. Pour les Noirs, il y a un facteur vraiment très, très spécifique. Pour les Arabes, par exemple, c'est plus nuancé parce que, d'une part, vous savez, j'ai fait une étude sur qui se désigne arabe. En fait, la moitié des gens qui pourraient se désigner arabes se marquent la coche la case arabe dans la case minorité visible. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui, eux, s'intègrent très bien, qui ont des revenus, qui ont des diplômes et tout, mais qui décident de ne pas se classer eux-mêmes dans la catégorie arabe. Alors, tout ça, ça affecte le pourcentage total. Ensuite, si vous regardez, pour les Arabes en particulier, ceux qui ont choisi de se déclarer arabes, vous regardez, par exemple, les familles économiques de plus de 4 personnes, ben c'est là qu'il y a le plus de familles arabes, beaucoup plus que de d'autres générations. Ça veut dire que les gens arrivent avec plus d'enfants, ça veut dire, c'est au fond, le fait d'avoir beaucoup d'enfants est aussi un signe de bien-être dans une certaine mesure. Je veux pas dire qu'il y a pas de racisme, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'il faut interpréter correctement ces chiffres et tenir compte des effets de structure. Ça veut dire quoi, les effets de structure? C'est, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants dans la famille? Est-ce que les gens parlent des langues? Est-ce que... quels sont leurs âges? Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont arrivées comme immigrants? Donc, eux, ils n'ont pas les mêmes... S'ils sont arrivés récemment, ils n'ont pas les mêmes pensions que les gens qui ont travaillé ici pendant 30 ans ou 40 ans.
Mais alors, M. Antonio, je vous prends un exemple qui va sans doute paraître un cliché, mais je veux vous entendre. Quelqu'un qui, par exemple, dit « Je suis originaire d'un pays arabe ou d'un pays africain, par exemple. Je suis pas capable de faire reconnaître mon diplôme. Je suis pas capable de me trouver un travail à la hauteur. » Je dis pas que c'est du racisme, mais il y a une réalité pour des gens qui débarquent d'une première génération de confronter le marché du travail.
Absolument, vous avez tout à fait raison là-dessus. Et dans ça, il y a certainement une partie de racisme parce que les gens qui ne connaissent pas la valeur des diplômes d'une autre culture se méfient un peu plus. Ils ne connaissent pas les codes sociaux des gens qui viennent ailleurs, ils se méfient un peu plus. Il y a beaucoup de travail d'éducation, de compréhension, de rapprochement à faire. Il faut jamais minimiser ça. Mais il faut pas non plus l'exagérer. Alors oui, la reconnaissance des diplômes est un problème majeur. Mais par exemple, il y a certains pays arabes où beaucoup de gens arrivent, mais prenons l'Algérie. Il y a des années où il y a eu 30, 40 000 personnes qui sont arrivées. Beaucoup de ces personnes travaillaient pour le gouvernement, pas toutes évidemment, et elles avaient des profils et des façons de c'est-à-dire un rapport au type de travail gouvernemental et de bureau très différent de ce qui se fait ici. Alors, ça devient plus difficile l'intégration. Par contre, si vous regardez un peu au niveau des techniciens en informatique, les webmestres, dans beaucoup d'institutions, vous avez des webmestres qui viennent de cette région du monde. Vous avez beaucoup de techniciens informatiques qui sont là. Donc, eux, ils s'intègrent très bien au marché du travail. Donc, il y a un effet de la structure même de l'offre. Avec quel type de compétences ils arrivent? Alors, la raison pour laquelle je dis tout ça, c'est parce que il y a deux, en tant que qu'interprète, disons, de ces données, moi, je tire deux grandes leçons. Un, la lutte aux inégalités doit continuer toujours. Le facteur racisme est toujours là. Ça, c'est la première leçon. La deuxième leçon, il faut pas non plus exagérer ce facteur-là. Il y a des facteurs structurels, la taille des familles, la composition des familles, le type de diplôme qu'on a, et toujours essayer de construire sur ce qui est positif et de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut améliorer?
Parfait.
Et là-dessus, l'étude de Statistique Canada, je la trouve très nuancée. C'est quand même une étude de 40 pages. On peut pas la résumer en quelques minutes.
C'est clair, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de nuances. Merci d'avoir été avec nous, M. Antonius.
Ça me fait plaisir.
Au revoir. Rachad Antonius est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal. Mais j'ai eu beaucoup de commentaires d'auditeurs qui, notamment un que je résume, qui dit « Mon père est arrivé ici d'Italie et ça a été dur pour lui. Ce sont des emplois qui n'étaient pas, disons, faciles, devait travailler beaucoup. Et tout ça avec comme objectif, entre autres, de permettre aux enfants, dont la personne qui m'écrit, d'avoir accès aux études. Et il dit « Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la finance. » Et j'ai pu, grâce au travail acharné de mes parents, atteindre un niveau de qualification qui me permet d'avoir un emploi. Donc, pour la deuxième génération, on le voit, ça peut être souvent plus facile. Et puis la troisième, comme disait M. Antonius, il y a souvent moins, ou en tout cas beaucoup moins de différence.
C'est 23.